Je ne vais pas être vraiment très long parce que la journée a été vraiment longue. D'abord, je voudrais dire, pour rebondir sur le vocabulaire d'Étienne, que le contrat a été rempli par les collègues. Merci beaucoup. Ils ont été formidables. On a eu des études très savantes de cas et des productions savantes d'arguments théoriques et aussi une interaction entre les deux. Et ça, c'était ce que j'espérais. Et voilà, je crois que nous l'avons obtenu. Alors, qu'est-ce que nous apprenons ? D'abord que le travail ne s'achèvera pas ce soir, que ce sujet est un sujet qui peut être abordé de bien des manières. On en a décrit un certain nombre de variables. D'abord, des mécanismes d'apprentissage dans le cours même du travail. Les artistes n'ont pas une idée fixée et se réservent des possibilités de faire bouger leur acte de création dans le cours du travail, même s'ils peuvent viser, comme l'a montré le premier exposé de Daniel Ferrer, ils peuvent noter tout de suite quelque chose comme une phrase de fin, mais le processus de travail est beaucoup plus labyrinthique, évidemment, et n'a pas un caractère linéaire. Et donc, les interstices, les espaces, les moments de... Voilà, où on se réserve quelque chose pour laisser proliférer et puis ensuite pour retrancher, additionner, retrancher, sont une leçon. Une leçon qui est à même l'analyse de cas. C'est aussi une question, ça a été beaucoup discuté, c'est une question de quel est le point de vue qu'on peut avoir sur ce sujet. Est-ce que c'est le point de vue de l'artiste qui réfléchit à la manière dont il travaille et aux décisions qu'il doit prendre, et en fonction de quelles normes, de quelle expérience, de quel type d'évaluation il va juger à chaque instant et à un moment donné l'état de son travail pour le livrer ou pour le poursuivre ou pour le reprendre. On n'a pas abordé la question des révisions a posteriori, mais c'est aussi un immense sujet. Ça, c'est le point de vue interne. Et heureusement aussi, on a le point de vue externe, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à des œuvres de cette nature. D'abord parce que l'incomplétude fait partie du plaisir même esthétique. La musique, ça n'est que ça, c'est retarder le moment de la fin, de la cloche. Différer, chacun sent bien que l'œuvre n'est pas encore finie, qu'il y a une cadence, etc., etc. Toute l'organisation, c'est celle de l'attente, de la surprise, de l'attente comblée, puis du différement de la fin, etc., etc. Et donc, on a ce point de vue externe, évidemment, du public aussi, qui est confronté à ce jugement à porter sur l'œuvre ou sur l'œuvre inachevée. Est-ce qu'elle vaut la peine ou est-ce que c'est une manifestation d'impuissance ou est-ce que, puisque c'est la production d'un génie ou d'un grand artiste, a priori, quelque chose doit être qualifiable de cette espèce-là. C'était un point essentiel. Quand on a une analyse empirique très largement déployé sur plusieurs terrains, comme ça a été montré en psychologie, c'est vrai qu'on a le sentiment d'ouvrir cette fameuse boîte noire de qu'est-ce que c'est que ce comportement dit créatif, puisque c'est un des mots qui circule le plus aujourd'hui dans l'univers du travail. Ce qui peut nous protéger des robots, c'est le fait qu'ils soient créatifs, que nous soyons créatifs, avant qu'eux peut-être le deviennent, mais sur quelle base? Et nous, nous avons cette possibilité-là. Mais qu'est-ce que c'est qu'au juste être créatif, en dehors du fait que, comme me le disait Todd Lubart dans la conversation du déjeuner, dans le World Economic Forum, la valeur de créativité est passée de la 11e à la 3e place dans les foundational skills, c'est-à-dire les compétences fondamentales requises dans le travail aujourd'hui. Et quand on veut définir la créativité, vous avez vu, c'est une boîte noire. Donc, il faut l'ouvrir. Et quand on l'ouvre, il faut la décomposer en une série de dimensions. Et on peut empiriquement les étudier, mais peut-être que plus on va vers l'étude empirique, plus on ouvre la boîte, plus on va s'approcher de l'idiosyncrasie, comme ça a été dit, et en même temps, qu'est-ce qu'on aura comme décomposition efficace pour qualifier les variations d'idiosyncrasie ? peut-être que les choses ne sont pas très simples non plus, et c'est la dynamique de la recherche, bien sûr. Ce qui veut dire, au passage, qu'une des chances de la recherche aujourd'hui, à travers à la fois ces protocoles, ces données, ces ressources, ces échanges, c'est d'aller vers une science de l'hétérogène. Autrefois, on disait il y a une science des régularités et une science du bruit. La sociologie était du côté, selon Pareto, de tout ce qui est illogique, et d'autres sciences du côté de ce qui est logique, régulier, etc. Je crois que ce temps-là est un peu clos et qu'on a l'idée d'aller vers une science de l'individuel ou de l'hétérogène. La citation que je donnais ce matin de Gilles Gaston-Granger allait dans ce sens-là. En fin de matinée, nous assistions à l'introduction du monde du marché dans ces opérations d'achèvement. Il faut rappeler, ça a été dit, et c'est une formule à laquelle je crois beaucoup aussi, c'est qu'une œuvre, ça n'est pas qu'une forme et voilà, quelque chose qui est livré, c'est un flux de services. Un flux de services à rendre, après tout, la transaction entre vous qui regardez l'œuvre et l'artiste qui l'a produite. Pour qu'elle dure à travers le temps, il faut que ce flux de services s'allonge et que les services que l'œuvre rend, des services esthétiques, mais aussi des services économiques, des services sociaux, etc., etc., de distinction, de consommation, de tous ordres, ces services-là, ils ne sont pas acquis d'avance. Ils sont renouvelés, ils sont augmentés, ils sont transformés. Et nous avons vu à travers Orson Welles que, d'une certaine manière, on peut transformer une économie défective des œuvres qui ne sont pas achevées en une économie de services rendus à Orson Welles pour le maintenir vivant et garder l'énigme en quelque sorte vivante, mais à travers des complexités que peut-être Orson Welles, malgré son goût du paradoxe du chaos producteur, n'avait pas prévu lui-même. Et pourtant, il était un enfant terrible, mais un enfant chéri, puis un enfant terrible du capitalisme industriel du cinéma. Dans les exposés de l'après-midi, on avait l'intérêt de se déplacer vers le monde de la musique, à la fois pour comprendre ce que sont des cultures de l'achèvement ou des disputes sur l'achèvement. Et ça, c'est assez révélateur. Et les exemples musicaux qui ont été donnés par Henriette Fauser étaient magnifiques. Et on voit bien que ce sont des constructions, que ces moments-là, il y a une historicité de ces opérations, comme il y a une historicité de la restauration. Alors, on a parlé beaucoup de viol et de tuc ces derniers temps, pour les raisons tristes que vous savez, mais il y a une historicité des opérations d'achèvement ou de restauration ou de remise en route, une historicité de la production des services rendus par les œuvres, y compris les œuvres qu'on voudrait bien voir un peu plus achevées qu'elles ne le sont. Et dans l'exposé qui a été donné sur Messiaen par Yves Balmer, évidemment, là, on était dans l'univers intérieur. On n'était plus dans le contexte. On était dans l'univers intérieur de l'artiste. Et en quelque sorte, le monde venait dans lui. Le monde venait en lui. Il convoquait le monde. Et je n'ai pas demandé à Yves ce que je pourrais lui demander maintenant, mais on ne va pas rouvrir la discussion. C'est qu'est-ce que Messiaen a laissé inachevé ? Est-ce que Messiaen a laissé des œuvres inachevées ? Et voilà, ça sera pour une autre fois. Mais il y a un comportement à travers tout ce que nous voyons pour produire des œuvres dans cette économie très paradoxale d'excès et de réduction. Il faut être prédateur, il faut être en quelque sorte il faut se comporter en prélevant et en réutilisant, en recombinant, en surexploitant tout ce qui existe, à la fois comme modèle et comme repoussoir. Mais on ne peut pas ne pas être dans les deux forces en même temps. On est le produit du passé, et Dieu sait si le passé se rappelle à nous sans arrêt par le patrimoine, par tout ce qui existe, parce que tout le public peut avoir au bout de ses doigts, voilà, et qui est instantanément disponible. Vous pouvez avoir les totalités des tableaux de tous les musées du monde sur Internet, vous vous rendez compte. Et donc, un artiste, c'est ça. Et en même temps, il a l'ambition d'être différent. Et comment fait-on tout ça? Et donc, le passé est une ressource et en même temps un repoussoir. Et il faut arriver à jouer avec tout ça. Ça veut dire que le travail est difficile et que les formules, chacun cherche une formule. Et les formules peuvent échouer ou les formules peuvent produire. Et il y a même des chercheurs pour déchiffrer les formules. Avec les cas de l'édition et du travail de mise en forme des œuvres monstrueuses, notamment vers leur fin, ça c'est une manière aussi de décomposer la séquence des carrières créatrices en plusieurs moments. Et quand les choses s'effondrent vers leur fin, comme ça a été montré par Jacques Leurider sur Nietzsche et Musil, évidemment, se met en place toute une formidable machine du regret ou du contrefactuel. Ah, mais si l'artiste avait continué dans une trajectoire de production qui nous laissait espérer la grande œuvre ou bien une sorte d'apothéose de la construction, comment est-ce que ça aurait été? Et donc, cette espèce de... C'est à la fois le contrefactuel est un puissant instrument du regret, c'est-à-dire... Ah, mais si, qu'est-ce qui se serait passé si? Et en même temps, c'est le ressort de l'énigme. Un grand esprit ne peut pas défaillir fondamentalement. Il nous a laissé tellement de choses qu'il ne peut pas ne pas y avoir des trésors extraordinaires dans quelque chose qui nous est laissé à l'état proliférant de cette espèce-là. Et c'est vrai que les attitudes peuvent avoir un caractère extraordinairement arbitraire à l'égard de ça, des éditeurs. On peut passer de faisons au mieux et livrons tout parce que nous ne pouvons pas faire au mieux, nous ne pouvons pas nous substituer à l'artiste, nous voyons que au créateur, nous voyons que ceux qui ont voulu le faire en éditant pauvrement ou misérablement, de manière tronquée, ont été infidèles, et donc faisons mieux, mais en faisant mieux, on peut faire aussi moins bien parce qu'on rend l'œuvre plus disponible et en même temps moins lisible. Donc tout ça, ce sont des arbitrages extraordinairement complexes et qui n'ont pas de solution simple. Il n'y a pas de stabilité dans ce système-là. Il y a un jeu. Et le flux de services dont je parlais, il fonctionne là aussi. Et puis, avec le cas que j'aime beaucoup de Rodin et qu'a traité Antoinette Lenormand-Romain, on voit bien qu'on sollicite sans arrêt la dimension à la fois presque naturalisante de l'activité, le caractère presque tranquille d'un comportement qui, pour le coup, n'est plus soumis au jeu des marchés, des choses comme ça. Une fois qu'on atteint une certaine réputation, on peut bousculer les critères et prendre sa liberté. Et après tout, la création et la réussite, c'est aussi l'augmentation de la liberté d'agir. Et la liberté d'agir, c'est la liberté de ce que j'appelais le sic iubeo, je décide que... C'est comme ça. Et c'est une des caractéristiques classiques des créateurs, de dire, voilà, c'est ainsi. Après tout, quand Duchamp a dit « Cette roue de bicyclette, c'est une œuvre d'art », il a dit « Sic iubeo », voilà, c'est moi qui décide et c'est moi qui juge que c'est comme ça. Suivez-moi si vous voulez. Et dans le cas de Rodin, évidemment, il joue sur d'autres variables, Dieu sait, mais avec un univers et aussi... pourrait développer aussi une, ce qu'on peut appeler cette atmosphère d'interprétation. Il faut bien que, Cyril, que dit, mais cette main qui est dans un abatis est disponible comme un module pour être associé à un bras, etc. Cette main, c'est peut-être la main de Dieu. Il faut bien que, et Rodin dit oui, pourquoi pas. Voilà, c'est une production d'interprétation. Donc on a là des éléments, évidemment, de contexte aussi. Et puis, Étienne, pour finir, nous a rappelé que il y a des régimes de création où les valeurs dont nous traitions aujourd'hui sont variables. Ce qui est le travail doit avoir un caractère organique de complétude. C'est même ça qui donne au travail une grande valeur, c'est de pouvoir suivre un arc de réalisation du début à la fin. Et ce qui n'est pas fini dans un monde normal, quelque chose qui n'est pas fini est une chose qui ne va pas du tout. Vous n'avez pas fini votre tâche, ce projet est inachevé. Dans un monde de travail normal, qui n'est pas un travail créateur, vous êtes sanctionné. Voilà. Dans un monde de travail de création, évidemment, on y va autrement parce que cette économie de la production aussi par excès et par invention originale et différenciante n'obéit pas du tout au même principe. Mais ce qui bouge, et ça je le vois à travers un certain nombre d'exemples qu'on a traités, on a traité de beaucoup de cas où les noms des créateurs étaient des noms illustres. Et on a touché à un moment donné le problème du biais de sélection pour étudier le cas de la création. Et il y a ce biais de sélection qui fait qu'on ne sait pas, après tout, un créateur qui n'a pas réussi à émerger, à acquérir une grande réputation, est-ce que son système de travail était mauvais ? Il n'a pas su manier toutes ces variables dont on nous a présenté avec Todd Hubbard les interactions complexes. Eh bien non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette attitude qu'on peut avoir, mais qui est indexée sur, encore une fois, la mise en énigme de la réussite plus ou moins grande de quelqu'un qui a déjà réussi des choses extraordinaires. Quelqu'un qui n'aurait fait que des œuvres inachevées, je pense, n'aurait pas été très loin parce qu'il n'aurait pas franchi les deux ou trois étapes nécessaires pour acquérir du crédit. Mais une fois qu'il a réussi des œuvres extraordinaires, évidemment, le fait de ne pas achever quelque chose est en soi une énigme qui peut transformer la vision des choses. Et donc cette énergie collective qui est indexée sur des cas individuels, au fond, c'est ça le maître mot peut-être de cette journée, c'est ce dialogue entre l'individualité et la dimension collective et l'énergie collective qui est derrière les systèmes d'évaluation, les systèmes de jugement, les systèmes d'appréciation et l'espoir qu'a chacun de trouver enfin le ressort pour être plus facilement créatif. Les artistes eux-mêmes en sont aussi un bon exemple. Et les chercheurs, je dois dire aussi, si j'avais le secret de la créativité aisée, tranquille et assurée de ses succès, je vivrais peut-être différemment, je pense que c'est une illusion absolument impossible et idiote en soi. Et donc, voilà, je conclue sur ces phénomènes ces variables d'historisation et d'indexation sur des contextes et des domaines différents de notre enquête sur la question du suspens dans la création. Et je vous remercie chaleureusement pour votre attention soutenue. Merci.